Le débat africain, Namori Dosso.
Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro consacré cette semaine à deux sujets de préoccupation majeurs sur le continent. L'inflation et la cherté de la vie sont-elles des fatalités avec lesquelles les Africains devront composer à l'avenir ? L'Afrique subsaharienne est une des régions du monde qui connaît la plus grande hausse des prix en ce qui concerne les denrées de première nécessité. Selon les chiffres de Numbeo, une base de données en ligne qui publie des indices sur le coût de la vie pays par pays, début 2024, la Côte d'Ivoire est le pays africain où le coût de la vie est le plus élevé. Le Sénégal et l'Éthiopie complètent le podium. Alors, quelles sont les causes de la vie chère en Afrique? Quelles conséquences pour les consommateurs? L'envolée des prix peut-elle conduire à des soulèvements populaires? Enfin, comment limiter l'inflation et donner davantage de pouvoir d'achat aux populations africaines? Ensemble, nous allons tenter d'apporter des réponses à ces questions d'actualité présentes dans plusieurs de nos pays. Nous sommes en compagnie de trois invités qui vont nous éclairer sur les mécanismes et les effets de la vie chère en Afrique. En ligne d'un village près de Quimper en Bretagne, dans l'ouest de la France, Vincent Bonnecaze, chercheur en sciences politiques au CNRS, membre de l'Institut des mondes africains. Vous travaillez sur ce sujet depuis plusieurs années. Vous êtes également l'auteur d'un livre intitulé « La vie chère de l'Afrique à l'Europe quand la colère passe par les prix » aux éditions Flammarion. Avec nous, de Lomé, Iva Badoou, vice-président du Conseil national du patronat du Togo, également président du Conseil des commerçants industriels importateurs et exportateurs dans le pays. Enfin au Tchad, Dingamanial Nelly Versini, le président du collectif contre la vie chère à N'Djamena. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Pour obtenir de la nourriture, correcte pour vous, pour votre famille, vous avez besoin de 200 000 naira, environ 123 dollars. Avant, ce n'était pas le cas.
Un kilo d'oignon, c'est 1200 francs.
En tant qu'infirmière, j'ai même pas les moyens de bien nourrir ma famille. Nos homologues à l'étranger, lorsqu'ils rentrent au pays, par pitié, certains nous donnent même une allocation pour survivre. Les difficultés nous frappent de plein fouet.
Aujourd'hui, les indicateurs de croissance et le taux d'inflation que connaît notre pays conduisent à plus de pauvreté, plus de marginalisation et à une baisse du pouvoir d'achat.
Sénégal, Côte d'Ivoire, Nigeria, Ghana ou encore Maroc, les prix atteignent des sommets dans certains pays africains. Les denrées de première nécessité deviennent inaccessibles pour les ménages. Il en est de même pour l'énergie, les loyers, les transports et bien d'autres produits et services indispensables dans la vie quotidienne des populations africaines. Selon la Banque africaine de développement, l'inflation moyenne sur le continent s'élevait à 17,8% en 2023. Alors que la hausse des prix et le pouvoir d'achat sont des préoccupations majeures pour de nombreuses opinions africaines, analysons ensemble ces problématiques qui, selon les économistes, risquent de durer. Sont-elles internes ou externes au continent africain? Vincent Bonnecaze, brossons le tableau de la situation actuelle. Quelle est la région d'Afrique qui a connu et qui connaît la plus forte augmentation des prix?
Je pense que c'est quelque chose de général. Alors après, on peut rentrer dans le débat pays par pays. Vous avez parlé de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de l'Éthiopie. Mais je pense que toutes les personnes qui nous écoutent actuellement en Afrique de classe populaire connaissent la même chose. Et je dirais que les chiffres ne renvoient pas toujours à la réalité telle qu'elle est vécue par les populations. Pour calculer l'inflation, on prend un panier de biens en fait qui correspond à certains choix et finalement calculer l'augmentation des prix, ça dépend de quel bien on commence. Si on prend les céréales qui intéressent particulièrement par exemple les classes populaires, l'augmentation est générale dans l'ensemble des pays africains. Par exemple, il y a des villes qui sont particulièrement touchées comme Dakar, on dit que c'est une ville très très chère. Il y a des phénomènes qu'on peut expliquer comme le fait de la gentrification très relative du centre-ville, mais finalement il y a des biens qui augmentent à Dakar qui ne touchent pas les classes populaires mais qui ne touchent que les classes aisées. Donc derrière les chiffres de l'inflation, ce qui est le plus important, c'est de voir finalement ce qui touche en particulier les classes populaires. Et je pense qu'en cela, l'augmentation des prix touche l'ensemble des classes populaires à l'échelle du continent.
Alors dans certains de nos pays, les prix ont doublé, voire triplé. Dingamanial Nelly Versini, président du collectif contre la vie chère à N'Djamena au Tchad, à quel niveau se situent les prix chez vous actuellement?
Il faut se dire que la chèreté des vies qui affecte tous les secteurs, et ce depuis une décennie, mais le pire est atteint les trois dernières années. Et cette situation ne cesse d'inquiéter les Tchadiens.
Alors donnez-nous un exemple. Par exemple, quels sont les aliments qui ont connu la plus grande hausse au niveau du prix ces derniers temps au Tchad?
Un sac de riz importé, par exemple, de 50 kilos, qui coûtait avant 18 000 francs, aujourd'hui ça coûte 30 000 francs CFA. Ça, c'est un sac de
50 kilos. Ça a quasiment doublé, donc.
Voilà. Et le sac de 25 kilos coûte 17 500 à l'heure où je vous parle. Un litre d'huile d'arachide produite localement, c'est-à-dire l'huile d'arachide, qui coûtait encore les années précédentes, qui coûtait 600 francs. Aujourd'hui, c'est à 2000 francs.
Alors, Yvan Badohou, vice-président du Conseil national du patronat au Togo, cette situation inflationniste a-t-elle des conséquences pour les entreprises togolaises?
Effectivement, parce que de toute façon, quand les prix des produits augmentent et que le pouvoir d'achat ne suit pas, effectivement, il y a une contraction du chiffre d'affaires. Mais nous sommes quand même assez bien débrouillés au niveau du Togo, parce que je pense que le gouvernement a pris conscience de ça très tôt par les projets de développement à la base. Au moment où il y avait cette crise, si vous voulez, le Togo même continuait à exporter.
Donc si je vous comprends bien, vous nous dites que les autorités togolaises ont, entre guillemets, mis en place des mesures pour limiter la hausse de l'inflation au Togo. Quelles sont ces mesures? Donnez-nous-en une.
Il y a eu un certain nombre de programmes qui sont arrivés à point nommé pour contracter tout ça. Et il y a eu des filos sociaux, des transferts monétaires pendant la crise de la Covid-19 qui a soutenu les populations. Et il y avait des projets de création.
Alors, est-ce que ça veut dire que les prix sont moins chers actuellement au Togo par rapport à d'autres pays, notamment en Afrique de l'Ouest?
Il y a eu une hausse, mais la hausse a été contenue quand même par rapport à nos pays, sauf sur certains produits d'importation. C'est sur les produits d'importation, le riz, le sucre, que vraiment ça a explosé. À cause de ce que vous savez, c'est-à-dire le transport, l'augmentation des prix à l'importation.
Yvan Badohou, on va revenir dans quelques instants sur les causes et les effets. Mais Vincent Bonnecasse, tout d'abord, je rappelle que vous êtes également l'auteur du livre « La vie chère, quand la colère passe par les prix ». Plus 17,8% d'inflation en Afrique l'an dernier, selon la Banque africaine de développement. Ce pourcentage est-il inédit ?
Disons qu'il atteint des pics qui ont déjà été atteints par le passé, mais parmi les plus hauts qu'ont connu le continent par le passé. Quand on regarde l'évolution des prix dans l'histoire, il y a eu régulièrement des pics d'inflation. Il y en a eu par exemple, alors c'est des phénomènes internationaux, il y en a eu dans les années 20, il y en a eu dans les années 40 ou dans les années 70. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que finalement ces pics se rapprochent et depuis les années 90, ils tentent à se répéter de manière de plus en plus rapprochée. Il y a eu l'année 2008, suite à la crise financière, avec ce qu'on appelait dans la presse internationale les émeutes de la faim, même finalement du point de vue des populations, c'était plutôt des émeutes contre la vie chère. Et il y a eu des pics plus récents en 2021, suite à l'invasion de l'Ukraine et suite à la reprise d'activité après la pandémie du Covid. Mais finalement, depuis 2008, quand on interroge les populations dans les rues, alors pour les pays que je connais, moi c'est plutôt au Niger et au Burkina Faso, la plupart des gens ont l'impression que la vie chère n'a pas cessé depuis 2008. Et quand on regarde des critères tels que, par exemple, encore une fois, le cours des céréales, c'est quelque chose qui est complètement avéré. Donc on a l'impression, oui, d'une accélération du phénomène et d'une place de plus en plus grande des prix dans les difficultés matérielles des populations.
Alors vous parlez de phénomène, ce phénomène est-il amené à durer ?
Je ne sais pas ce qui peut se passer, mais disons que si on analyse les causes de ces phénomènes, il y a à la fois des causes conjoncturelles qui sont celles dont on a beaucoup parlé dans les journaux internationaux, et encore une fois, le fait qu'après la décrue des activités pendant les confinements et la pandémie des Covid, il y ait une brusque augmentation de la demande après la reprise des activités économiques qui a pesé sur l'économie mondiale. Il y a eu aussi l'invasion de l'Ukraine qui a pesé sur l'offre des céréales et du gaz, et par effet de chaîne sur d'autres produits et d'autres matières premières. Mais il y a aussi des causes structurelles qui sont la recrudescence des accidents climatiques qui sont de plus en plus importants à l'échelle internationale. Par exemple, l'Inde a connu des inondations en 2023 qui a pesé beaucoup sur la production du riz et qui a amené l'Inde à suspendre ses exportations, ce qui a eu évidemment des effets aussi sur les cours internationaux. Et cette thématique du changement climatique, alors c'est une bombe à retardement pour beaucoup de choses, mais aussi, entre autres, sur les prix. De ce point de vue-là, oui, on peut supposer que ce phénomène est amené à durer.
Dingam Nayal Nelly Versinia N'Djamena Otchad, comment la hausse des prix des denrées alimentaires ou de l'énergie est-elle vécue ou perçue par les populations tchadiennes?
Il faut se dire que cette situation est devenue difficile Il suffit de faire un tour dans les marchés de la capitale pour se rendre à l'évidence de la flambée des prix des produits de première nécessité. Et cette situation qui perdure affecte considérablement le panier de la ménagère et ça rend tout le monde triste. Et la tristesse se lit sur le visage, rien ne va plus franchement. Aujourd'hui, le Tchad vit une chèreté de vie sans précédent.
Alors, est-ce que les habitudes d'achat des consommateurs ont évolué ?
Les habitudes ne font que régresser au contraire. Parce que pour un tas de gombo sec, on peut dire que 20 gousses de gombo que la ménagère achetait avant à 300 francs, aujourd'hui c'est à 600. Ça doit se doubler. Quoi, doubler ? Et là, aujourd'hui, les ménages tchadiens n'en peuvent plus. Et là, du jour au lendemain, les prix ne font que grimper.
Alors, Iva Badou, représentant du patronat togolais, vous aussi, vous avez constaté des changements dans les habitudes d'achat des Togolais ces derniers temps ?
Effectivement. À partir du moment où, moi je suis en plus dans un secteur où on touche vraiment à la population togolaise, la plus basse population togolaise, les femmes, elles nous disent, avant, quand on va au marché, c'est pour acheter ce qu'on aime. Mais on revient à la maison avec ce qu'on n'aime pas. Ça veut dire qu'on est obligé de faire des choix. Moi, j'irai encore plus loin parce que tout à l'heure, le premier interlocuteur, il disait, moi, je trouve que le problème de la vie chère dépasse même le cadre de la guerre en Ukraine ou la Covid.
C'est-à-dire, où voulez-vous en venir précisément ?
Moi, je veux en venir à la production et à la consommation.
Africaine.
Africaine. En Afrique, il faut qu'on arrête de consommer ce que nous ne produisons pas et consommer ce que nous produisons. C'est ça notre gros problème. Le gros problème, c'est-à-dire que nous produisons pour l'exportation et nous faisons les importations pour notre consommation.
Alors, on va revenir dans quelques minutes sur la question de la production intra-africaine. Mais juste avant, j'aimerais entendre Vincent Bonnecaze au sujet de la perception des opinions vis-à-vis de l'inflation en Afrique. Comment est-elle perçue par les consommateurs que vous avez rencontrés lors de vos recherches ?
Alors, ça rejoint ce que vient de dire l'interlocuteur, c'est que finalement, dans les causes dont j'ai parlé jusqu'alors, c'est les causes dont on parle le plus dans les médias.
La perception est-elle différente en Afrique et en Europe ?
La perception est différente en Afrique et en Europe, de manière générale, parce que justement, en Europe, on s'arrête souvent aux questions d'offres et de demandes pour expliquer l'augmentation des prix, comme si c'est des choses auxquelles on ne pouvait rien, c'était juste le marché. Alors que quand on interroge, en tout cas, dans les enquêtes que j'ai faites au Burkina Faso, des populations de classe populaire sur l'augmentation des prix, la plupart imputent une très forte responsabilité au niveau des prix, et notamment une responsabilité de leur propre gouvernement, et aussi une responsabilité des commerçants et des transformateurs. C'est comme si on croyait moins finalement au marché au Burkina Faso qu'on pouvait le croire en France. Et par exemple, à Ouagadougou, on dira que les prix, c'est pas qu'ils augmentent, comme si ils étaient les sujets de leur propre évolution, on dira souvent qu'ils ont été augmentés. Et ça touche à quelque chose qui est étudié par des économistes, alors pas les économistes peut-être majoritaires, mais qui disent finalement, derrière ce qu'on appelle le marché, derrière l'offre et la demande, il y a des vraies personnes qui sont dans des positions plus ou moins de pouvoir et qui participent aussi à la fabrique des prix. Et alors, par exemple, c'est la question des marges, la question des marges des industriels et la question des marges des commerçantes, qui peuvent être à la fois celles des commerçants internationaux. Il y a par exemple un petit nombre de sociétés de frais à l'échelle internationale qui ont un poids très très important sur l'évolution du cours des céréales, mais également éventuellement la marge de certains commerçants nationaux dans différents pays africains qui sont en position de force dans leur propre marché. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans les discours que j'ai recueillis au Burkina Faso et au Niger.
Bien que les situations varient d'un pays à l'autre en Afrique, la question du prix demeure la même. Selon les données de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, le panier moyen des ménages africains flambe, plus 80% pour le maïs, plus 50% pour la farine, plus 40% pour le riz, plus 30% pour la volaille. Ce qui nous amène à la question suivante. Quel est le mécanisme des prix en Afrique ? Iva Badou, du patronat togolais, qui détermine les prix chez vous ? L'État, le patronat, les marchés ?
Les prix sont déterminés par la main invisible du marché. Le Togo est une économie libérale où l'État est régulateur. Nous sommes dans une zone, une communauté Nous sommes dans l'UMOA. Donc, il y a un règlement de l'UMOA sur la concurrence. Il y a une loi togolaise sur la concurrence. Et il faut respecter ces règles de fonctionnement. Aujourd'hui, l'État, en ce qui concerne les produits de première nécessité, nous sommes battus à l'époque depuis 2011 pour fixer des valeurs de référence ou des valeurs barèmes pour dédouaner certains produits, pour permettre à la population d'avoir accès à certains produits de première nécessité. Et l'UMOA aussi avait sorti également une liste de 10 produits sur lesquels l'État avait exonéré de la TVA. La TVA passait de 18% à 0%, exonération de la TVA, parce que 0%, ce n'est pas la même chose. Donc, exonération de la TVA. Il y a la réduction l'électricité, parce que quand on parle de charité de la vie, ce n'est pas seulement le panier de la ménagère. C'est également l'habitat, c'est également le transport, c'est la téléphonie, l'eau, ou un certain nombre de produits. Donc, ces prix-là ont été revus et pour que la population puisse avoir accès. Nous, au niveau du Conseil national du patronat togolais, dans le cadre de concertation avec les pouvoirs publics, nous sommes revenus là-dessus plusieurs fois. Et au niveau de la loi de finances 2023 et 2024, et même pendant la période Covid, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Bon, nous estimait que quand même, on pouvait encore aller au-delà, mais on les a poussés à renoncer à beaucoup de recettes pour permettre à la population d'avoir accès à ces produits et pour que le niveau de vie soit maintenu.
Alors, Vincent Bonnecaze, éclairez-nous si possible sur la mécanique des prix en Afrique. Par exemple, comment fixe-t-on le prix des produits vivriers dans les pays dans lesquels vous avez travaillé ces dernières années ?
Alors, officiellement, d'un point de vue des règles, c'est ce qui vient d'être dit, effectivement, les prix sont libres. Officiellement, il y a quelques tarifs qui sont encore régulés directement par l'État, qui du point de vue de l'État, ont un intérêt stratégique, comme l'eau ou bien social, comme l'électricité dans un certain nombre de pays. Mais officiellement, les prix ont été dérégulés depuis les années 90. En fait, c'est un résultant des programmes d'ajustement structurel par la plupart des gouvernements africains sous la contrainte des institutions financières internationales. Ça, j'allais dire, c'est le cadre officiel des prix. Après, en pratique, encore une fois, il y a des tas de chercheurs qui disent que cette notion de main invisible du marché ne renvoie pas à la réalité telle qu'elle existe. C'est-à-dire que derrière ce qu'on appelle la main invisible du marché, il y a des acteurs économiques et politiques qui existent pour de vrai et qui ont des marges plus ou moins importantes pour participer à la fabrique des prix. Quand on regarde par exemple les cours céréaliers, il faudrait faire toute la chaîne en fait des céréales par exemple importées depuis l'Asie jusqu'au Togo, au Tchad ou n'importe quel autre pays africain. Et par exemple, on peut voir que à certains strates de la chaîne, il y a des acteurs qui sont en position dominante et parce qu'ils sont en position dominante et qu'en plus tout ça se fait non pas de manière officielle, de manière relativement opaque, ils ont une marge de manœuvre pour accroître ou diminuer leurs bénéfices. Et ça justement, c'est pas la mesure du marché. Le marché, encore une fois, c'est des vraies personnes qui existent. C'est quelque chose qui est de plus en plus pointé par les collectifs de lutte contre la vie chère qui disent que derrière cette notion, on invisibilise la responsabilité des gens. Et il faut revenir finalement à une plus grande visibilité sur les mécanismes de fabrique des prix et à une responsabilisation tant des gouvernements mais aussi des différents acteurs économiques tout le long de la chaîne de fabrique des prix. C'est quelque chose qu'on n'entend pas encore, mais c'est une revendication qui est de plus en plus importante et qui, à mon avis, est appelée à grandir dans les prochaines années, tant cette question des prix affecte les conditions de vie des classes populaires.
On va faire une courte pause dans le débat africain. On continue de parler de la vie chère en Afrique avec nos invités juste après le journal.
Débat africain, Namori Dosso.
Bienvenue et merci si vous nous rejoignez dans la deuxième partie du débat africain sur RFI, un débat consacré à un sujet de préoccupation majeure sur le continent, la flambée des prix des denrées de première nécessité, de l'énergie, des loyers ou encore des transports. La vie chère en Afrique est-elle une fatalité? On en parle en compagnie de Vincent Bonnecaze, chercheur en sciences politiques au CNRS, membre de l'Institut des mondes africains, auteur d'un ouvrage intitulé « De la vie chère de l'Afrique à l'Europe ». Quand la colère passe par les prix aux éditions Flammarion. Iva Badohou, vice-président du Conseil national du patronat du Togo, également président du syndicat des commerçants industriels, importateurs et exportateurs dans le pays. Enfin, Djinga Manial Nelly Versini, le président du collectif contre la vie chère à N'Djamena au Tchad.
Si on prend un haricot vert comme ça, on prend le kilo à 800, nous on revend ça à 1000 francs. Avoir 200 francs de bénéfices.
Bon, là, on est obligé d'acheter moins qu'avant. Quand tu n'as pas les moyens ou quand la vie devient plus chère, tu ne peux pas manger comme tu veux, tu ne peux pas manger comme avant. Du coup, je suis obligé de calculer et tout. Donc, je mange moins qu'avant.
Ça ne marche pas. Parce que les marchandises sont devenues très chères. Le marché est très cher aujourd'hui. Là. Donc, vraiment, ça nous fatigue. Ça nous fatigue. Où on prend, là, c'est cher. Donc, quand on amène au marché, les femmes aussi disent tout qu'on vend cher. Oui, c'est là-bas où on prend là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on a mis les ventes chères. Donc, aujourd'hui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne va pas. Bon, avant, le carton de 20 000, aujourd'hui, on prend ça à 30 000. Donc, vraiment, c'est devenu dur. Ça ne va pas. Tout le monde se plaint.
Ici, en Côte d'Ivoire, le logement est cher, l'alimentation est chère, la santé est chère, l'éducation est chère, le transport est cher. Du coup, les populations, qu'elles soient fonctionnaires, salariés du privé ou libéral, en tout cas, elles ne se retrouvent pas. C'est vraiment difficile.
Parole de commerçante et de consommatrice en Côte d'Ivoire, suivie du point de vue de Poulchérique Balé, présidente d'Alternative Citoyenne Ivoirienne, une plateforme de la société civile engagée dans la lutte contre la vie chère. Juste avant la pause, nous parlions du mécanisme des prix en Afrique. J'aimerais que l'on s'arrête ensemble sur les conséquences de la vie chère pour les ménages africains. Vincent Bonnecaze, y a-t-il une forme de résignation de la part des consommateurs africains face à la flambée des prix?
Je ne pense pas. Il y a des mouvements de colère assez grands. Alors cette colère, elle se voit par des révoltes sociales qui sont récurrentes depuis un certain nombre d'années. Donc on a beaucoup parlé en 2008 des mouvements contre la vie chère et ça avait été quelque chose d'extrêmement frappant parce que ce n'était pas la première fois qu'il y avait des révoltes sociales face à l'augmentation des prix. C'est un phénomène qui existe depuis très longtemps, depuis toujours dans l'histoire. Mais c'était sans doute la première fois qu'elles arrivaient de manière en même temps, en fait, dans différents pays. Et ce qui avait vraiment frappé les opinions internationales, dans un contexte où on avait l'impression que les aliments qui viennent à monter, que la planète est de plus en plus difficile à nourrir, ça avait été quelque chose d'extrêmement frappant. Donc il y a toujours une colère très très forte, je ne pense pas qu'on puisse parler de résignation. Et j'ajouterais à cela que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de révolte, qu'il n'y a pas une colère sourde qui s'exprime face à la vie chère. On peut le voir au Tchad, on peut le voir au Togo, mais on peut voir aussi ailleurs. C'est que quand on écoute les conversations sur les marchés, on voit que cette augmentation, elle est perçue comme imputée à des responsabilités. Elle suscite une colère sourde, quand bien même elle ne débouche pas forcément sur des émeutes et des mobilisations.
Alors justement au Tchad, Djinga Manial Nelly Versini, président du collectif contre la vie chère N'Djamena, les consommateurs tchadiens privilégient-ils aujourd'hui la qualité à la quantité?
Il faut parler de la qualité, là, c'est difficile. On peut parler maintenant de la quantité, parce que tellement que la vie est extrêmement chère, si on peut acheter de la qualité, on ne peut pas s'en sortir. Pour un ménage de 5 personnes, il faut débourser au minimum 5 000 francs. Et s'il faut se baser sur la qualité, on ne peut pas s'en sortir. Les gens ne peuvent même pas manger à leur faim. Surtout qu'au Tchad, il faut oublier maintenant le baromètre de manger 3 fois par jour.
Donc si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est que les gens mangent de moins en moins, c'est ça?
Oui, avoir un repas par jour, il faut dire Dieu merci. Parce que les gens mangent de moins en moins, parce que tout est cher au marché. Donc il faut, même si c'est des poutines, si on peut appeler ainsi, il faut donner du sel à sa famille pour goûter et boire au moins 2-3 gorgées d'eau dessus avant de dormir. Mais s'il faut se dire que je mange la qualité, ça, même les Tchadiens les plus nantis n'en peuvent plus.
Alors, à qui profite cette hausse des prix en Afrique? Yva Badou, vice-président du Conseil national du patronat au Togo, la hausse des prix profite-t-elle aux entreprises?
La hausse des prix ne profite pas aux entreprises, de toutes les façons, puisque les entreprises achètent plus cher et on est obligé de rogner sur notre marge. La hausse des prix est due au phénomène, j'allais dire, structurel du marché mondial. Comme disait notre ami qui est en France, il connaît bien la réalité de la situation, et les prix ont explosé. Nous retrouvons surtout avec la hausse du prix du transport pendant la Covid, où les conteneurs sont passés venant de Chine de 7 000 à 21 000 dollars le conteneur. Donc on est obligé de repercuter. Donc en repercutant ces prix, on est obligé de baisser notre marge.
Donc, si je comprends bien ce que vous nous dites, ça veut dire qu'il n'y a pas de gagnants, il n'y a que des perdants dans ce contexte d'inflation et de vie chère en Afrique aujourd'hui.
Bien entendu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les Africains, nous devons changer de modèle ou de mode de consommation. Aujourd'hui, tous les produits que nous consommons viennent, disons, à 80 ou dans certains pays à 90% de l'extérieur. Or, nous produisons ici pour envoyer à l'extérieur. C'est-à-dire que notre schéma d'industrialisation même doit être complètement revu dans les décennies à venir. Heureusement que la BAD avait mis un programme un peu avant la Covid-19 et la guerre en Ukraine qui a un peu fait un matelas, tu vois, un amortisseur à tous ces problèmes. Sinon, je pense que l'effet sur nos populations serait encore plus terrible.
Alors justement, les gouvernements africains tentent de limiter l'ampleur de cette inflation. Certains ont mis en place des mesures pour y faire face. Dingam Nayal Nelly Verseni au Tchad, qu'est-ce qui a été mis en place par les autorités tchadiennes pour endiguer l'inflation?
Jusque-là, ici au Tchad, nous évoluons de promesse en promesse. Il faut relever cet aspect pour le déplorer. Il y a le ministère de commerce qui est là, qui est chargé de contrôler les prix. Mais jusque-là, cette direction, le ministère de commerce, à travers la direction de contrôle des prix de concurrence, cette direction ne fait pas son travail. Je prends l'exemple en 2021, si vous me permettez. L'État tchadien a pris des dispositions nécessaires pour mettre sur pied concept juste des prix, pour réguler les prix des denrées alimentaires de première nécessité sur le marché. Mais deux semaines après, le gouvernement est impuissant devant ces commerçants qui sont au Tchad. On les qualifie de commerçants véreux. Et il faut se dire que les commerçants sont en sorte plus puissants que les décideurs.
Vous nous dites qu'au Tchad, certains commerçants ne jouent pas le jeu.
Certains commerçants jouent le jeu. Mais c'est au gouvernement maintenant de réguler le prix. Mais le gouvernement, face aux commerçants, le gouvernement est impuissant pour faire respecter les décisions prises par le gouvernement pour ne serait-ce qu'atténuer le choc par rapport à la sécurité des vies que vit la population tchadienne du jour au lendemain.
Alors récemment au Tchad, le gouvernement a déclaré la gratuité de l'eau et de l'électricité jusqu'à la fin de l'année. N'est-ce pas une mesure positive pour les ménages, de façon à ce qu'ils fassent des économies importantes?
Parlant de la gratuité de l'eau et de l'électricité, comment on peut rendre la consommation de l'eau et l'électricité gratuite? Et pourtant, depuis des mois, trois mois d'affilée, il n'y a même pas d'électricité, il y a des coupures intempestives. Beaucoup de ménages utilisent les générateurs, l'eau même, là, les robinets ne coulent pas, et l'eau même, il n'y a même pas de l'eau potable. Il faut d'abord subventionner ce qui est disponible. On ne peut pas rendre gratuit ce qui n'est pas disponible.
Gouverner à moindre coût, c'est le titre d'un chapitre présent dans votre livre, Vincent Bonnecaze. La hausse du niveau de l'inflation dégrade le pouvoir d'achat des ménages. Dans certains pays africains, les autorités ont bloqué les prix des produits de première nécessité. Or, on a l'impression que cela ne change rien vis-à-vis des consommateurs. Le blocage des prix est-il la solution face à l'inflation, Vincent Bonnecaze?
Avant de répondre à votre question, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y avait que des perdants à la hausse des prix. Je ne pense pas qu'on puisse se dire cela, et je pense qu'on peut être que tous les trois d'accord sur un point. Par exemple, il y a des entreprises, je prends l'exemple d'une entreprise française investie en Afrique comme Total. Le pétrole n'a cessé d'augmenter dans les dernières années. Or, Total fait par ailleurs des bénéfices record. Donc, il ne s'agit pas d'incriminer l'ensemble des chefs d'entreprise et des commerçants. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais on doit quand même se demander qui profite de la vie chère, parce que de fait, il y a des personnes qui profitent de la vie chère. Pour ce qui est des politiques publiques, Effectivement, il y a plusieurs outils qui ont été mis en place pour lutter contre les enchères. Il y a le blocage des prix, mais finalement, à partir du moment où les prix se font largement en dehors de l'espace décisionnel gouvernemental, c'est quelque chose qui a, dans le monde dans lequel on vit actuellement, qui a des impacts relativement limités. Il y a d'autres outils qui ont été utilisés par le passé, comme des subventions, par exemple, subventionner les produits de première nécessité. Là, c'est quelque chose qui était beaucoup fait jusqu'aux années 80, mais c'est des politiques auxquelles les programmes d'ajustement structurel ont mis fin dans les années 80, et d'ailleurs, ce qui a suscité des émeutes dans un certain nombre de pays africains. Donc, est-ce que c'est une politique qui est appelée à se redévelopper? Ça, on ne peut pas encore le dire. Et sinon, il y a une autre politique dont on parle beaucoup depuis 2008 et dont on a parlé à propos du Togo, c'est le fait de revaloriser les agricultures locales. Finalement, quand on voit l'évolution des productions agricoles, après les indépendances, les gouvernements visaient l'autosuffisance alimentaire et à partir des années 90, les gouvernements se sont mis à viser la sécurité alimentaire, c'est-à-dire en comptant non seulement sur leur production locale, mais aussi sur les importations, pour la raison que les importations étaient souvent de prix moins élevés, et aussi dans un contexte où les pensées libérales étaient ultra dominantes.
Alors tout à l'heure, Vincent Bonnecasse, vous parliez de colère sourde, pas forcément visible, hein, au sein des sociétés africaines vis-à-vis de l'inflation et de la vie chère. Yva Badou, représentant du patronat togolais, constatez-vous dans votre pays une colère de la part des consommateurs vis-à-vis des hausses de prix ?
Colère, non. Oui et non. Oui, parce que bon, les prix, quand ça augmente, ça fait pas plaisir, mais ça reste à un niveau gérable.
Il semblerait que les solutions à court terme mises en place dans certains pays africains ne soient pas ou ne sont pas satisfaisantes. Parlons donc des solutions à long terme et de la nécessité de mettre en œuvre des réformes structurelles. Vincent Bonnecasse, est-ce que face à l'inflation et la vie chère, la solution pour l'Afrique serait d'augmenter la productivité intérieure afin d'accroître l'offre de biens au niveau national ?
Alors, en tout cas, pour accroître l'indépendance économique, je le dirais plus comme ça. Et oui, c'est sans doute certainement une des voies à suivre, même si, dans un sens de confronté au réchauffement climatique, tout est incertain. Le continent africain est tout particulièrement concerné par ces questions-là, enfin comme le reste du monde, mais avec des effets plus graves en termes de catastrophes climatiques. Mais ce qui n'empêche qu'à mon avis, oui, il faut... Alors c'est pas le travail des chercheurs de dire ce qu'il faut faire, mais il me semble en tout cas que c'est une voie poursuivie et qui est d'ailleurs poursuivie par plusieurs pays africains actuellement. Et je dirais, si je puis me permettre de poursuivre, ce qui me frappe dans ce que j'ai entendu, c'est que souvent, quand on parle des responsabilités au niveau des prix dans l'ensemble de pays africains, ce qui est le plus visible, c'est les responsabilités nationales. C'est-à-dire que les populations veulent d'abord leur propre gouvernement, et on le voit dans le cas des émeutes, où ce qui est cassé, en général, c'est absolument pas des symboles internationaux de la finance internationale, mais c'est des symboles de l'État. Et il me semble que là où il y a peut-être un travail à mener, qui peut être à la fois mené, sans du tout vouloir donner de leçons, mais par des organisations militantes, mais aussi, pourquoi pas, par des gouvernements, c'est aussi de rendre plus visible la responsabilité, non pas du marché international, mais d'acteurs très très précis dans la fabrique des prix. Et finalement, c'est un travail qui est mené par certaines organisations politiques en Afrique.
Alors justement, Vincent Bonnecasse, posons la question à Dingane Nayal Nelly-Versini, président du collectif contre la vie chère à N'Djamena au Tchad. Pour vous, est-ce que vous partagez le point de vue de Vincent Bonnecasse ?
Lui, il prend des cas où les gouvernants sont responsables et se soucient du bien-être de la population.
Mais est-ce que les acteurs au niveau de la société civile n'ont pas un rôle à jouer ?
Dans le cas où le dirigeant prenne en considération les plaidoyers que nous portions à leur destination, parce que nous relayons ce que le bas peuple, la population pense bas, on nous porte, et nous maintenant, c'est à nous maintenant de faire le plaidoyer auprès des dirigeants. Mais le cas spécifique du Tchad, les dirigeants ne prennent pas en considération tous les plaidoyers que nous avions envoyé au niveau de leur cabinet.
Alors, ils contenaient quoi exactement ces plaidoyers ? Quelles sont les solutions que vous avez mises dans ces plaidoyers pour lutter contre la vie chère ?
Bon, pour lutter contre la vie chère, nous avons fait des propositions concrètes pour demander à l'État de prendre un décret ou un arrêté pour plafonner les prix et les marges des produits de première nécessité. Il faut d'abord continuer la surveillance du prix des produits. La conception et le pilotage de ce baromètre doit se faire en commun accord entre les techniciens du ministère du Commerce, obliger les commerçants à afficher les prix des produits de première nécessité. Cette mesure contribuera à éviter toute augmentation unilatérale du prix déjà fixée par les autorités. On peut continuer encore pour dire qu'il faut mettre les prix doubles pour booster la production locale, comme venait de dire mon prédécesseur. Pour cela, il faut subventionner les intrants agricoles, faciliter l'accès au crédit agricole. Il faut instaurer également du principe de l'information préalable et de consultation avant toute augmentation de prix des denrées. Les opérateurs économiques doivent impérativement informer l'État de toute initiative d'augmentation du prix des produits, en concertation entre le gouvernement, les acteurs de la société civile et les opérateurs économiques.
Alors, on a bien compris hein, le plaidoyer hein, et notamment les solutions hein, que vous avez proposées aux autorités N'Djamena. L'amélioration des investissements en infrastructures de transport et de stockage afin de promouvoir la production domestique et le commerce infrarégional, ce pourrait être également une des solutions. Écoutons ensemble le docteur Moussa Elias Farakan Diomandé en Côte d'Ivoire. Il est le président de la Confédération patronale unique des petites et moyennes entreprises du pays.
Je fais du piment, je fais du pastèque. Je fais de l'oignon, je fais de l'ail. De la zone où je suis situé, dans la région de Séguéla-le-Woroba, déjà je suis à 20 km de Séguéla, la capitale. Mais je vous assure que les routes pour quitter ma ferme à moi, pour venir à Séguéla, c'est tout un problème. J'ai dû moins ouvrir les routes pour pouvoir accéder à ma plantation. Quand il pleut, c'est impossible pour les paysans de travailler. Ce qui fait que nos produits pourrissent. Dans cette région, vous avez la banane à profusion. Mais cette banane sort comment?
Le temps qu'elle arrive.
Elle est complètement pourrie. Elle est complètement pourrie. Le transport fait partie de l'économie. Pour transporter un produit de la Côte d'Ivoire au Sénégal ou du Sénégal en Côte d'Ivoire, c'est plus compliqué que de prendre ce produit pour aller en France. Donc il faut développer le transport intra-africain. Reprendre le transport maritime, ça n'existe plus. Il n'y en a plus. Moi, je sais qu'en Mauritanie, il y a du poisson. Une partie du poisson va en Europe avec des normes bien précises, mais une autre partie pourrait revenir sur les marchés africains à des taux trop bas, ce qui aurait baissé le coût. La Mauritanie a besoin du savoir-faire des Ivoiriens dans d'autres domaines, et c'est tout ça qui baisse le coût de la vie.
Extrait du grand reportage consacré à la vie chère en Côte d'Ivoire, signé Alexis Bédu. Vincent Bonnecasse, développer le transport intra-africain pour limiter la hausse des prix et baisser le coût de la vie, ne serait-ce pas la solution la plus efficace ?
Alors, sans doute pas la solution, mais finalement, dans ce que vient de dire cet interlocuteur ivoirien, il parle à la fois de solutions techniques, c'est indéniable, oui, effectivement, il faut des meilleures routes, il faut des meilleurs transports, mais après, au-delà de ça, il y a aussi la question des décisions politiques, en fait. Si il y a des routes et du transport, mais que, comme il dit, le poisson part en Europe plutôt que de rester sur place, ça ne favorise pas forcément le niveau de vie des populations locales. Moi, je pense que, sans du tout contredire ce qu'il a dit, ce qu'on peut partager, en plus de ces solutions techniques, il y a aussi les décisions politiques qui consistent finalement à ce que le politique s'approprie plus l'économique pour orienter les choses vers le bien-être des populations.
Yves Abadohu, vice-président du Conseil national du patronat au Togo, est-ce que vous partagez le fait qu'il faut d'abord et avant tout renforcer les transports et le commerce intra-africain pour limiter le coût de la vie en Afrique ?
Absolument. C'est pour ça qu'on a mis en place, les dirigeants africains ont mis en place les CAF.
Qui ne porte pas encore ses fruits pour l'instant. Elle a été lancée, mais ça ne porte pas vraiment.
Il y a déjà des pépinières d'expertise ou de développement ou de culture, j'allais dire des pépinières de culture. Moi, je crois fortement à un développement du commerce intra-africain. Parce que c'est quand on voit tout ce que nous envoyons à l'extérieur, mais nous avons les meilleures terres, nous avons des terres arides, tout ça, je pense qu'il faudrait changer. Ça passe par un changement de paradigme. On peut faire tous les développements qu'on veut, mais tant que notre mentalité ne sera pas changée, modifiée, on doit changer de mindset. Tant que le mindset n'est pas changé, on ne fera rien.
Et c'est sur ce point de vue que nous allons clore ce débat africain. Merci infiniment à tous d'avoir participé, d'avoir apporté vos regards et vos analyses dans ce débat consacré à la vie chère en Afrique. Un débat que vous pourrez retrouver en podcast sur l'application RFI Pure Radio. Merci également à l'équipe du débat africain, Delphine Michaud à la coordination, Taguimfa Traoré à la réalisation. Notez que le débat africain change de case à partir d'aujourd'hui. Vous nous retrouverez à partir de 8h10 et 22h10 temps universel. Le samedi, le dimanche, aux mêmes horaires sur l'antenne de RFI, vous aurez désormais rendez-vous avec Afrique, mémoire d'un continent, présenté par Elgas et Penaï Traoré. De Dakar à Kinshasa en passant par Pretoria et Alger, merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux points de vue africains dans un monde en perpétuel mouvement.